Bonjour, bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité aujourd'hui, c'est l'homme fort du mouvement social, celui qui incarne la lutte contre la réforme des retraites et à la veille d'une semaine cruciale, il nous dira comment il imagine la suite des événements, ce qu'il attend aussi du gouvernement. Il a rendez-vous demain avec le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye. Question politique est en direct avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, pour intervenir l'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Question Politique, Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde, bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Philippe Martinez, et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Projetons-nous vers la semaine à venir, Philippe Martinez. Demain, vous avez rendez-vous donc avec Jean-Paul Delevoye. Mardi, nouvelle mobilisation en perspective. Mercredi, les annonces du Premier ministre. Et jeudi ?
On verra mercredi soir ce qui se passera jeudi. Ça dépend des annonces du Premier ministre.
Donc vous en attendez quelque chose ?
Bien sûr.
Quoi ?
Bien qu'ils disent qu'il y a un fort mécontentement dans ce pays, que ce soit en termes de mobilisation. Vous avez tous et toutes souligné le niveau de mobilisation de jeudi dernier dans les grèves, parce que les manifestations, c'est le reflet des grèves. Il y a beaucoup de grèves dans ce pays, et puis c'est l'opinion publique. Et donc quand on a un tel niveau de mécontentement, on réfléchit et on dit la réforme c'est pas la bonne, donc on remet les compteurs à zéro et on retravaille d'autres hypothèses à partir des propositions que fait la CGT, par exemple.
Ça veut dire les compteurs à zéro, ça veut dire que vous ne voulez absolument pas entendre parler d'un système de retraite à points.
Exactement. Pas uniquement le point, c'est tout ce qui va avec. Or, nous avons fait la démonstration que ce système et tout ce qui va autour, par exemple le calcul sur l'ensemble de la carrière, va faire perdre à tout le monde, hormis de façon marginale à quelques-uns. Donc c'est ce que nous disions, tout le monde perdant. Donc ce qui prouve que ce système n'est pas bon. Donc il faut recommencer. Et nous prétendons, et nous ne sommes pas les seuls, que nous avons un des meilleurs systèmes de retraite au monde qu'il faut juste améliorer et adapter à certaines réalités.
On va y venir tout à l'heure, mais là, de toute façon, toutes les indications qui viennent du gouvernement, c'est qu'ils ne renonceront pas au système. Ils veulent des aménagements importants, mais pas renoncer. Est-ce que ça veut dire que dès jeudi, vous êtes de nouveau dans un appel à la grève et aux manifestations ?
Mais écoutez,
Philippe Martinez.
Le Premier ministre a dit qu'il ne voulait pas de confrontation, pas d'affrontement.
Voilà. Monsieur Martinez, les choses sont assez claires. Vous dites, vous savez pas ce que vous ferez jeudi. Vous dites, un retrait ou rien. Et le gouvernement dit tout sauf
un
retrait.
Nous, on dit pas un retrait ou rien.
Ah, alors qu'est-ce que vous dites?
Un retrait et l'amélioration du système actuel qui est le meilleur au monde.
Mais vous êtes d'accord que vous faites du retrait un préalable à une reprise, enfin, à un arrêt de la grève? Or, le gouvernement dit tout sauf le retrait. Donc, le scénario, on le connaît.
C'est le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, qui choisit la confrontation et l'affrontement.
Il n'y a pas de compromis possible.
C'est pas une question de compromis. C'est quand vous avez une réforme qui est autant repoussée par l'opinion publique en général et par les salariés en particulier. Soit vous écoutez, on est dans l'acte 2 ou pas du quinquennat, enfin vous l'avez entendu, le président de la République, faut écouter, faut se concerter. Et là, j'allais dire chasser le naturel, il revient au galop. On montre les muscles, on dit on lâchera rien. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'écouter le peuple et d'écouter tout ce qui se passe d'ailleurs dans le pays,
parce que vous non plus vous ne lâcherez rien si on vous entend.
Mais je suis en train de vous dire que depuis 2 ans, on a expliqué, on a proposé. Pourquoi à chaque fois qu'il y a de telles discussions, ça serait le projet d'un gouvernement ou du patronat qui serait à amender ou à changer 3-4 virgules? Pourquoi on ne dit pas, finalement, on va peut-être regarder qu'est-ce qui va pas dans notre système actuel pour l'améliorer?
Mais entrons justement un petit peu dans le vif du sujet. Ça fait 2 fois que vous dites, et je vous l'ai déjà entendu dire ailleurs que sur notre plateau, on a le meilleur système au monde. Alors, on a sans doute eu un très bon système. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui partent à la retraite et on a de moins en moins de cotisants. Donc forcément, malgré tout, il va falloir changer le système ou voir changer de système. Pourquoi ne pas accepter ça ?
Il va falloir le faire évoluer. Alors, on va prendre point par point.
Allons-y.
Les femmes. n'y a pas besoin de changer le système de retraite pour que les femmes aient des meilleures pensions. Il faut les payer comme les hommes pendant qu'elles travaillent. Qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour le faire, alors que...
Mais ça, c'est le patronat qui va le faire, c'est pas le gouvernement.
Il a lancé un plan,
mais,
il fait des injonctions aux entreprises.
Vous avez noté une réduction des écarts entre les femmes et les hommes? Parce que si vous l'avez noté, vous me dites où, comment, et vous me faites la démonstration.
Mais vous ne pouvez pas dire qu'il est passé à côté d'une bataille.
Mais non, mais pourquoi dire que c'est en changeant le système de retraite qu'on va réduire les inégalités? Personne ne m'a contredit, aucun ministre ne m'a contredit là-dessus. Si on paye les femmes comme les hommes... Forcément,
le gouvernement a déjà fait son travail.
Attendez,
il y a des lois qui sont passées et qui effectivement, normalement, ne serait-ce que il y a très très longtemps la loi Roudy, il me semble qu'elle impose l'égalité. Donc c'est avec le patronat là qu'il faut négocier. C'est au chef d'entreprise.
Soit on a des lois contraignantes. Vous voyez, dernièrement ils ont fait un indice. Sauf que les critères les plus valorisants pour les entreprises, ce ne sont pas des critères qui permettent de réduire les inégalités. D'ailleurs, le gouvernement vient de repousser l'idée de sanctions pour atteindre les niveaux d'indices. On recule à chaque fois. Il faut, de temps en temps, il faut taper du poing sur la table. Ces inégalités sont inadmissibles. Alors, soit on dit, vous inquiétez pas, on travaille, on a fait des lois, soit on dit, maintenant, c'est fini. Soit vous appliquez, soit on sanctionne. Faire de la politique et un gouvernement qui...
Ça fait 20 ans que vous dites, même plus, la CGT en fait un de ses combats moteurs, sauf que les résultats, comme vous dites, ne sont pas là non plus. Quand Laurent Berger dit, moi au fond, j'ai défendu le système de retraite à points parce que je regarde tel que fonctionne le marché du travail aujourd'hui. Au fond, il pénalise tous ceux qui ont des carrières hachées, tous ceux qui sont en marge, c'est-à-dire qui ne sont pas intégrés parce qu'on les a laissés en marge, et peut-être parce que ceux qui ont leur emploi, et notamment un emploi à vie, font tout pour se protéger. Est-ce que vous êtes sensible à ça en disant il faut qu'on arrive vers quelque chose de plus universel, de mieux partagé, que d'être accroché à nos avantages?
Bien sûr. Donc je continue sur les propositions de la CGT. On a parlé des femmes. Deuxième chose, pour réduire ces inégalités durant la carrière, le gouvernement, lui, propose de prendre en compte l'ensemble de la carrière. Et là, il n'y a pas besoin d'être très fort en retraite. Tout le monde sait, enfin la majorité de ceux qui travaillent sont moins bien payés au début de leur carrière qu'à la fin. Donc si on élargit l'assiette, forcément, ça va peser sur le niveau des pensions. Et le meilleur exemple, c'est les enseignants. Quand on a les enseignants les moins bien payés d'Europe, eh bien, quand on prend le calcul de la pension sur l'ensemble de la carrière... quand on prend sur l'ensemble de la carrière, ça fait 17 à 30% en moins. La meilleure façon d'éliminer les problèmes de carrière, c'est de réduire le nombre d'années prises en référence pour calculer la pension. Ben nous proposons de revenir à 10 ans, les 10 meilleures années. C'est la meilleure.
De rebâtir le déroulé des carrières. Parce que un des problèmes des enseignants en France aussi, c'est qu'ils sont pas bien payés en début de carrière.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Et donc, forcément, vous êtes d'accord avec moi, si on prend l'ensemble de la carrière, la pension va baisser.
Ce nouveau système de retraite, si jamais il se met en place, ce serait l'occasion pour les enseignants, et ils ont été nombreux dans la rue jeudi dernier, de voir leur salaire augmenter.
Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi on ne le fait pas là? Est-ce qu'il y a besoin de changer le système de retraite pour augmenter les enseignants et l'ensemble des fonctionnaires qui ont vu leur point d'indice bloqué pendant plusieurs années? Il y a une toute petite augmentation, je crois, il y a 2 ans, mais sinon, le gouvernement considère les fonctionnaires comme des privilégiés, qu'ils sont trop payés, on a gelé le point d'indice.
Mais du coup, là, vous dites, les enseignants, vous allez rester payés tels que vous l'êtes aujourd'hui, et simplement, on va calculer sur les 10 dernières années.
On dit les enseignants et l'ensemble des fonctionnaires, il faut qu'ils voient leur traitement revalorisé. Et là, c'est pas le patronat qui augmente les salaires des fonctionnaires, n'est-ce pas?
C'est l'État.
Merci.
Donc, et pour le coup, qu'est-ce que vous dites à Jean-Paul Delevoye lorsque vous le rencontrez? Vous allez le voir demain. Quoi est-ce que vous discutez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont négociables ou pas?
Avec Jean-Paul Delevoye, par exemple, sur la question des femmes, il nous dit « Vous avez raison ». Entre le Premier ministre et Delevoye, ça doit faire 22 ou 23 fois, oui. Donc, vous voyez, tous les ministres qui disent la CGT politique de la chaise vide, ils n'ont pas dû regarder la bonne chaise, vous voyez.
Discutez.
Je dis à M. Delevoye, les femmes, vous êtes d'accord? Il dit « Oui, on est d'accord, mais c'est pas moi, ça ».
Comment sur... ça, c'est pas moi, ça veut dire quoi?
Il dit, c'est pas moi, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est vrai que s'il y avait égalité, ça réduirait les écarts au niveau des pensions, ça augmenterait les pensions des femmes, mais il dit, c'est pas dans ma cour. D'accord. Sur l'emploi des seniors, parce que j'ai pas fini, vous savez que il y a 10 fois plus ce qu'on appelle les seniors, il faudrait se mettre d'accord sur le terme, de plus de 55 ans, qui ne sont plus au travail à cet âge-là. Bah, pourquoi on les maintient pas au boulot? On va rallonger l'âge de la retraite alors que le nombre de personnes qui pourraient être en activité au-dessus de 55 ans a été multiplié par 10 ces dernières années. Eh bien, s'ils restent au boulot, ça fait des chômeurs en moins, ça fait des cotisations en plus, et puis on peut les laisser au boulot jusqu'à 60 ans. Vous voyez,
donc ça, vous en parlez avec Jean-Paul Delevoye et
ça
avec
aussi,
le Premier
dit,
ministre.
Ça aussi, non, non.
Est-ce que vous pouvez...
C'est beaucoup
que...
Monsieur Delevoye qui a... Est-ce ça, que... il dit, c'est pas moi. Bon, ben, en urgence, le gouvernement vient de nommer une mission comme si... sûrement grâce à nous, on leur a ouvert les yeux pour dire on va s'occuper de l'emploi des seniors. Et là aussi, c'est dire aux entreprises, avant que vous me posiez la question, de dire arrêtez sous des appellations plan de départ volontaire, plan de je ne sais quoi, mobilité, agilité, gardez-les.
Mais il y a... Monsieur Martinez, bon, pardon, ce que vous reprochez fondamentalement au gouvernement, je vous ai entendu il y a quelques minutes, c'est d'être arrivé avec son projet et puis de dire on discute sur mon projet et de ne pas avoir fait, si je vous ai bien entendu, finalement une bourse aux idées et d'avoir écouté vos propositions d'abord.
C'est faire un préalable en disant ça sera comme ça.
L'argument de la validation par le suffrage universel de cette réforme des retraites qui figurait noir sur blanc dans le programme d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est un argument que vous entendez?
C'est, vous savez, il y a des sondages en ce moment. Est-ce qu'il faut modifier le système de retraite? Moi, vous me posez la question, je dis oui.
Non, oui, c'est non, le système changer par points qui était dans la campagne.
Le président le système élu par points, en même temps. Le système par points, c'était dans un programme.
Validé donc, par les Français.
Enfin, validé... vous êtes meilleur que moi, vous êtes des spécialistes de la politique. Est-ce que c'est 66% qu'il a eu au deuxième tour?
Oui.
Est-ce que vous pensez que 66% de ceux qui ont voté pour lui ont voté pour son programme, ou quelques-uns, peut-être beaucoup, ont voté non pas par adhésion, mais par rejet? On est d'accord?
Est-ce qu'il est légitime d'accord pour appliquer son programme? Est-ce qu'il est légitime
pour appliquer son programme? Non, mais quand on dit j'ai fait 66%, 66% de ceux qui ont voté pour moi ont adhéré à mon projet, je trouve que c'est un manque d'humilité et c'est un raccourci.
Oui, mais c'est ce qui donne de la Ve République François en même temps. À ce moment-là, on gouverne plus dans cette logique-là.
Je suppose, je ne le suis pas. On prend en compte.
Vous l'êtes un peu.
Non, moi je suis syndicaliste.
Vous menez de l'action politique.
En ce moment, en tout cas, c'est comme ça.
Je suis syndicaliste. C'est ce qui me permet d'ailleurs d'avoir l'écoute des salariés, des travailleurs et des citoyens en général. Quand on a un peu d'humilité, eh bien, on dit oui, il y a des Français qui ont voté pour moi, pas pour moi, contre celle qui était en face de moi, et donc je vais modifier un peu et je vais écouter un peu plus. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis quelques mois, je trouve qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises qui ont un regard dubitatif, pour être poli, sur le programme et l'action du gouvernement.
Vous en faites partie de ces Français?
Bah oui.
Qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui aujourd'hui se retrouvent...
Je fais partie de ces Français qui
déçus,
sont, pour le moins, dubitatifs sur l'action du gouvernement. Et je ne suis pas le seul,
vous le savez.
Est-ce
que vous direz aujourd'hui que le président de la République est minoritaire?
J'en sais rien.
Ah bah c'est un peu ça que vous êtes en train de
laisser
entendre.
En tout cas, l'action du gouvernement est minoritaire. Parce que des luttes, il y en a beaucoup. Le jeudi dernier, ça a été le révélateur de tout ce qui se passe depuis des mois. Les gilets jaunes, la santé, Radio France. Je crois qu'ici, il y a une grève depuis 15 jours.
C'est ça. Oui.
Voilà. Vous avez des taux d'écoute les meilleurs de France. Et pour vous remercier, on vire 300 personnes. Je trouve que votre slogan d'il y a quelques années, écoutez la différence.
C'était le slogan de France Inter pendant des années.
Ça marche, parce que les taux d'écoute sont excellents, et quand les taux d'écoute sont excellents, on vire
399.
Voilà, 300 personnes. Sans que d'ailleurs le ministre de la Culture ne s'intéresse à ce qui se passe ici. Vous voyez, ça, c'est la conception du gouvernement, du dialogue social. Il y a un problème. On fait comme s'il n'existait pas et on n'écoute pas les salariés qui se battent.
Il y a malgré tout le premier syndicat de France, la CFDT, qui est pour un système universel
et qui négocie avec le gouvernement. Parce que moi, je veux bien parler
Philippe
de démocratie.
Martinez, oui.
Je veux bien parler de démocratie. Vous avez noté qu'il y a une majorité de syndicats en France qui sont contre cette réforme.
Alors justement,
y compris la CGC, qui vient de réaffirmer, qui a défilé jeudi avec les autres syndicats. Donc
non, la démocratie, mardi, mardi, elle sera
ça,
pas
ça
là,
veut dire
la
quoi,
CGC.
La CFDT, elle pas tous en même temps.
Pour voilà, pas tous en même temps. Oui. Je vous dis qu'il y a, vous qui êtes, nous sommes tous attachés à la démocratie. Bien quand il y a une majorité de syndicats qui dit cette réforme, elle est pas bonne, là aussi, le gouvernement devrait s'y intéresser.
Pardon, monsieur Martinez, mais quand le premier c'est syndicat de France dit, alors, en revanche, en tout cas dans les élections professionnelles récentes, écoutez, dit que c'est une réforme par
vous
point,
avez, on
peut
pas
faire.
Avoir, on peut pas avoir la conception de la démocratie à géométrie variable. Quand la CGT était première organisation on et qu'on disait non. Vous disiez, il y a une majorité de syndicats qui sont contre. Je l'ai entendu, par exemple, pour un certain nombre de réformes. Mais maintenant qu'il y a une majorité de syndicats qui sont contre, on dit, tiens, mais le premier syndicat de France, alors, il faut être cohérent.
Pas, mais
dans
que pensez-vous de sa position? Est-ce qu'elle est antisociale, la CFDT? C'est ça
pas,
la question.
Pas du tout. Je pense que la CFDT, d'ailleurs, faut poser la question à Laurent Berger. Ça fait un petit moment qu'il parle de retraite par points. Mais je trouve que sur un certain nombre de sujets, ils ont du mal à s'expliquer. Et puis moi, je regarde aussi les sections syndicales, les syndicats de la CFDT. Enfin, à la SNCF, je crois que...
La CFDT cheminot?
Elle est dans le mouvement, me semble-t-il.
Oui, elle avait déposé un préavis. Voilà. Dans
Est-ce
le mouvement,
que vous avez des contacts avec Laurent Berger en ce moment, dans ces périodes-là?
Mais on a des contacts réguliers avec Laurent Berger.
Est-ce que vous essayez de l'entraîner dans le mouvement ou
c'est,
pas
c'est normal que les premiers responsables de syndicats se parlent. Si le jour où on se parlera plus, ça sera grave, grave. Donc oui... J'entends Laurent Berger qui dit il faut trouver d'autres formes d'action, etc. Qu'il me le dise, et on regardera si on peut agir ensemble. Pour l'instant, je ne l'ai pas entendu me préciser quelle forme d'action ou quelle action il souhaitait mener. Donc, on est ouvert à la discussion.
Karine Bécard.
Alors, on parle de Laurent Berger, on parlait tout à l'heure de Jean-Paul Delevoye. Quelles sont vos relations avec Jean-Paul Delevoye? Il y a également réunions qui ont eu lieu avec Édouard Philippe. Est-ce que c'était plus simple de discuter avec Jean-Paul Delevoye? Est-ce que vous aviez plus confiance de parler en Édouard Philippe? Comment les choses de l'intérieur se sont passées? Est-ce que vous pouvez nous le raconter?
Philippe Martinez, je vais pas tout vous raconter.
Mais sans nous révéler de grands secrets, mais des relations.
D'ailleurs, il n'y a ni de grands ni de petits secrets. Je crois que c'est assez original, d'ailleurs. Monsieur Delevoye symbolise parfaitement le nouveau monde politique dont a fait la
politique. Il est quand même issu de l'ancien, hein, c'est quand même un...
Mais laissez-moi terminer.
Dire,
vous manquez un peu d'humour, chère madame. C'est vraiment le symbole de ce que disait monsieur Macron. Alors, qu'on prenne quelqu'un de 72 ans, bon, qui défend l'allongement de l'âge de la retraite, je veux bien l'entendre, parce qu'il est quand même, il a largement dépassé l'âge légal. Mais qu'on prenne quelqu'un qui a, lui, contribué, à casser, ou en tout cas à affaiblir notre système, puisque la fameuse réforme Fillon, c'était lui, qui a exonéré les entreprises, et notamment les plus grandes, du paiement des cotisations sociales, ce qui ferme le robinet pour avoir plus d'argent, pour permettre de développer et d'améliorer notre système.
Du coup, ça a rendu les relations compliquées?
Alors, monsieur Delevoye, qui est donc, on vous l'avait compris, de l'ancien monde, à une certaine conception différente de la démocratie sociale et du rapport aux syndicats. Il parle, lui, il a jamais dit, lui, les syndicats, ça sert à rien, contrairement au président de la République. On a fait un très bon débat à la Fête de l'Humanité cette année. On est bien dans une conception d'argument contre argument, projet contre projet, parce que le gouvernement a un projet, la CGT a un projet, on a débattu. Ça, c'est ça, la démocratie sociale.
Oui, mais le gouvernement ne dit plus les syndicats ne servent à rien. Ça y est, vous êtes écoutés, vous êtes reçus à Matignon. Comment ça se passe à Matignon? Oui, 23 réunions.
Mais c'était déjà le cas avant. Entre être reçu et être entendu, vous voyez la nuance?
Mais qu'on est-ce qu'il y a...
C'est le cause toujours, tu m'intéresses.
Est-ce qu'il y a un bon et un méchant au sein du gouvernement? Le bon, ça serait Delevoye, et le méchant, ça serait Édouard Philippe.
J'essaie juste de vous expliquer que les théories... de Monsieur Macron, puisque vous me parlez de son programme, de sa candidature, sur le nouveau monde politique, une autre façon de faire la politique, sur un sujet comme les retraites, il n'a pas choisi l'exemple même du nouveau monde politique. C'est tout ce que je vous dis. Et donc, ce qu'on peut saluer en Monsieur Delevoye, c'est le fait qu'il sait ce que c'est que les syndicats, il sait que ça sert à quelque chose. Donc, quand on se parle... Même si on n'est pas d'accord, il y a du respect. Et c'est ce qui manque beaucoup chez Monsieur Macron, chez Monsieur Philippe et chez toute une série de secrétaires d'État ou de ministres qui, eux, symbolisent le nouveau monde de la politique, qui ont du mépris pour les syndicats et du mépris pour le monde du travail.
Mais comment vous le ressentez, ce mépris?
Mais quand quand un secrétaire d'État dit « Regardez, la CGT vient jamais discuter avec nous » et que je vous dis que ça...
On a c'est fait... le cas au ministère des Transports.
Vous parlez de Jean-Baptiste Djebbari, par exemple.
Voilà, c'est le cas. Mais c'est le cas.
L'État aux Transports.
Mais madame...
Le patron de la Confédération cheminot, c'est pas déplacé, ou pas tout le temps en tout cas.
Vous savez, quand on est secrétaire d'État aux Transports, son premier boulot, enfin je suppose, hein, c'est de s'occuper des transports. Il y a eu un grave problème, vous en avez fait écho, d'accident de TER. Mm-hmm. Vous croyez pas que c'est l'occasion pour le secrétaire d'État aux Transports de dire aux syndicats, venez discuter des problèmes de la SNCF, venez discuter des questions liées à la sécurité des usagers. Eh bien, la seule chose qu'il dit, c'est venez discuter des retraites. Et ce qu'a dit le secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, il a dit, mais vous discutez avec notre confédération des retraites, nous on veut discuter de la question de la SNCF.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter, Ali Badou. Questions politiques.
C'est la tradition, Philippe Martinez, votre portrait, signé Karine Bécard.
Presque 5 ans déjà passés à diriger la CGT. Vous êtes aujourd'hui, Philippe Martinez, très installé dans le paysage syndical français. C'est vrai que votre style, un peu bourru et bien évidemment moustachu, vous a aidé à être identifié, finalement plus peut-être, du moins faut-il l'espérer, que par les insuccès que vous avez enchaînés. Parce que depuis que vous êtes arrivé, la loi El Khomri est malgré tout passée, les ordonnances Macron ont quand même été adoptées et la réforme de la SNCF, celle de l'an dernier, est bel et bien appliquée. Donc pas facile pour l'ancien technicien des usines Renault. Renault, c'est là, Philippe Martinez, où vous avez travaillé, c'est là où très jeune vous vous êtes syndiqué, à Boulogne-Billancourt, ce qui ne vous a pas empêché, il y a une vingtaine d'années, de défendre le site de Vilvoorde et ses salariés.
Cette décision d'une heure de grève... C'est une première étape, oui. Puisque dès la semaine prochaine, il y aura d'autres manifestations. Mmh. Et compte tenu de l'état d'esprit et du mécontentement qu'il y a chez Renault, je crois que les salariés peuvent décider avec leurs organisations syndicales, dès jeudi, d'autres formes de grève.
10 ans plus tard, vous devenez à la CGT le patron d'une des plus grosses fédérations, pas celle des cheminots, celle des métallos. Et à l'époque, vous savez dialoguer, c'est-à-dire que vous savez faire plaisir aux militants avec vos discours offensifs et vous montrer beaucoup plus pragmatique avec les dirigeants d'entreprise quand vous négociez en coulisses. Aujourd'hui, Philippe Martinez, dans votre costume de secrétaire général, vous apparaissez beaucoup plus dur et beaucoup plus fermé, capable, comme tous les syndicalistes classiques, de bloquer des sites et d'organiser des grèves dans le service public, sauf que le monde est en train de changer, que les gilets jaunes ont préféré vous snober, et que d'ailleurs vous êtes passé sérieusement à côté.
Moi, en général, j'ai un gilet rouge.
Mmh. Vous changerez pas de couleur?
C'est la couleur de la CGT, mais rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des gilets rouges à côté de gilets jaunes.
Alors serez-vous capable de vous adapter à la CGT, de vous transformer, d'innover? À 58 ans, Philippe Martinez, vous semblez très attaché à tout ce qui a toujours structuré, organisé notre société. Vous avez tenté l'an passé une grève perlée qui n'a pas marché, mais cela ne veut pas dire qu'il ne serait pas temps de vous réinventer.
Réaction, Philippe Martinez?
Bon, c'est quelque chose que j'entends depuis 5 ans, donc il n'y a rien d'original, excusez-moi de vous le dire, il n'y a rien d'original dans ce que vous me dites.
C'est peut-être juste. C'est peut-être pas original, mais pas faux.
Non, c'est pas... Alors, vous voyez, puisqu'on parle de retraite, on est très attentif aux nouvelles formes de travail. Vous savez, les travailleurs que M. Macron nous présente comme l'avenir, qui ont juste une application sur leur téléphone.
Ce qu'on appelle les nouveaux travailleurs des applis.
Et exactement.
Auquel Dominique Médal, la sociologue, a consacré un livre passionnant récemment.
Qui livre soit des repas, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Premièrement, ils viennent de syndiquer à la CGT. On vient de créer 10 syndicats. Vous voyez, quand on regarde le monde tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? On veut des garanties collectives. On veut des droits collectifs. On veut un salaire minimum. On veut avoir le droit à la santé quand on tombe de vélo, comme un jeune de Mulhouse qui est tombé de son vélo en livrant parce qu'il faut aller très vite et qui s'est retrouvé dans le coma. qui va être paralysé à vie et qui doit plus de 120 000 euros à l'hôpital public parce qu'il n'a pas de carte vitale, parce qu'il n'a pas de cotisation. Eh bien, on dit, vous avez le droit, vous devriez avoir les mêmes droits que les autres. Il faut que ces plateformes qui disent on n'est pas leur patron cotisent à la sécurité sociale pour leur retraite. Vous voyez, c'est ça, s'adapter au monde moderne. C'est-à-dire ne pas accepter l'esclavagisme moderne, mais ne pas ignorer ce qu'ils subissent.
Mais c'est aussi trouver peut-être de nouvelles formes de mobilisation. C'est en train de... de s'émousser, non? Alors, vous avez réussi jeudi dernier.
Jeudi, on était très émoussés.
Mais parlons par exemple de ce qui s'est passé à Paris.
Regardez, vous êtes peut-être pas au courant. Vous savez qu'une partie des chemins de fer en Grande-Bretagne est privatisée.
Oui.
Eh bien, il y a une grève en ce moment dans une compagnie. Grève reconductible, 25 jours. Donc jusqu'à la fin de l'année. Vous savez pourquoi? Pour qu'il y ait des contrôleurs dans les trains.
Pour fermer les portes.
Absolument. Vous le savez?
Oui. Pour plus de sécurité.
Donc vous voyez qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque quand on demande la même chose en France. Et dans un pays comme la Grande-Bretagne, il y a les mêmes revendications. Donc cette idée qu'on serait des zombies, que vous ne l'avez pas dit.
Non,
hein,
je ne dis pas ça comme ça.
Mais les Gaulois réfractaires. Les Gaulois réfractaires.
Un petit peu, ouais, ça vous avez raison, je d'accord.
Eh bien partout dans le monde, là où c'est pas encore interdit. Parce que malheureusement, les droits sociaux et le droit de grève et le droit de se syndiquer reculent. Mais partout où c'est encore possible, eh bien tout le monde a les mêmes formes d'action. Pas comme ça, on fonce pas comme ça. Mais au bout d'un moment, quand les gens ont ras-le-bol, eh bien, ils agissent. Et les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés sur des ronds-points, ils ont manifesté, ils ont bloqué des ronds-points. Ça ressemble un peu à ce que parfois font les salariés et les militants de la CGT. Ils ont fait des manifestations. Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Ils ne voulaient pas de structure, ils ne voulaient pas de porte-parole, ils ne voulaient pas de représentants, ils ne voulaient pas négocier ou discuter ce que font les syndicats ou les corps intermédiaires.
Vous avez noté que jeudi, ils appelaient aussi à la mobilisation, parce que à force de discuter, eh bien, nous, on a sûrement mieux compris ce qu'ils attendaient des syndicats. D'ailleurs, il y a des Gilets jaunes qui adhèrent à la CGT, peut-être
combien
à d'autres syndicats.
Il y en a combien, à peu près?
J'ai pas de fichier.
Non, mais vous devez savoir à peu près.
Il y a une fourchette, c'est
de
beaucoup,
ce qui se passe
beaucoup
dans votre organisation, quand
mais
même.
Des centaines ou des milliers?
Des milliers, non. Mais des centaines, oui.
Alors justement, l'un des enjeux de la mobilisation actuelle, c'est essayer d'attirer le privé, parce qu'on a vu beaucoup de monde dans la rue, mais c'était beaucoup des services publics. Est-ce que vous espérez que mardi, il y ait une mobilisation du secteur privé, et comment est-ce que vous faites pour essayer de l'avoir?
Alors, Philippe Martinez. Jeudi dernier, nous avons recensé environ, et on ne les connaît pas tous, 3500 appels à la grève dans le privé. 1000, par exemple, dans les entreprises de l'agroalimentaire. Je ne vais pas citer de marque, je ne vais pas faire de pub. Dans la métallurgie, vous savez que les raffineries sont en grève. C'est pas le secteur public, ça, n'est-ce pas? Donc, il y a de nombreuses entreprises du privé qui étaient en grève jeudi. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu autant de monde dans la rue et pas autant de monde en grève.
Est-ce que vous espérez plus mardi?
Mais bien sûr, bien sûr.
Quoi votre objectif pour mardi?
Je suis pas prévisionniste, moi. Nous, on travaille au quotidien.
Non, mais vous cherchez à faire nombre, donc vous pouvez répondre à Françoise.
Il faut que le niveau de mobilisation
monte,
évidemment. Et donc, il faut continuer à convaincre. Mais je pense que jeudi, ceux qui hésitaient en se disant « est-ce qu'on va être assez nombreux ?», ça a donné une dynamique. Ceux qui étaient déjà en grève, évidemment, sont regonflés, si je puis dire. Mais ceux qui hésitaient... Mais on sait bien que c'est pas facile de faire grève. Moi, on n'appuie pas sur un bouton. Les précaires, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui n'ont qu'une application comme contrat de travail, vous savez... Tous les matins, ils ont l'angoisse de savoir si l'application elle est toujours sur leur téléphone. Mmh. On n'est pas à côté d'un monde qui est ce qu'il est. Donc on sait bien. Moi, j'ai des tas de salariés qui me croisent. Ils me disent « Monsieur Martinet, on serait bien avec vous, mais je suis intérimaire. Si je fais grève, eh ben demain, j'ai plus de boulot. » Parce qu'en plus, plus de boulot là où il est, mais plus de boulot dans le département, voire dans la région, parce que les messages... C'est ça que vous devriez condamner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait pression sur les salariés... Et ils n'ont plus le droit de faire grève pour un certain nombre. Ça, c'est grave. Vous savez que le défenseur des droits vient de publier un rapport accablant pour le patronat et le gouvernement sur la nature des discriminations syndicales en France. On n'est pas en Chine, en France.
Mais il n'explique défenseur des droits, il n'explique pas cette culture française qui fait que très peu de gens, le taux de syndicalisation est extrêmement faible comparé à d'autres pays européens.
Oui, oui. Mais bon, je vous dis pas ça pour vous, mais quand j'entends les politiques qui disent qu'on n'est pas représentatif, on a 652 000 adhérents. Citez-moi
un parti
politique en France qui a 652 000 adhérents. Vous pouvez même les additionner, je ne suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un a dit que les partis politiques n'étaient pas représentatifs? Si on prend les élections, c'est autre chose. Sauf que la démocratie sociale dans ce pays, Quand il y a une élection présidentielle, le bulletin Macron ou je ne sais qui, vous l'avez dans tous les villages.
Mais ce qu'on a observé...
Attendez, je n'ai pas fini. Vous l'avez dans tous les villages. Quand il y a une élection professionnelle en France, le bulletin CGT, vous ne l'avez pas dans toutes les entreprises. Il faut être implanté dans l'entreprise pour pouvoir voter CGT. Ben nous, on demande que, comme pour les élections politiques, il y ait un jour dans le pays où tous les salariés, les chômeurs, parce Monsieur que les Martin. Chômeurs, ils ont le droit de voter. Enfin, ils n'ont pas le droit aujourd'hui, mais ils devraient avoir qu'il y ait un jour d'élection professionnelle.
Jeff Wittenberg, puis François Spressos.
Si vous voulez bien, je voudrais revenir sur le fond de la réforme et sur un point précis. Vous avez dit cette réforme, elle est soutenue, plutôt, elle n'est pas soutenue par l'opinion publique et l'opinion veut majoritairement un retrait. Sur le point...
Elle n'est pas soutenue.
Elle n'est pas soutenue. Sur le point spécifique des régimes spéciaux, comment vous expliquez que malgré toutes vos explications sur la pénibilité des tâches que doivent exécuter les cheminots, le travail de nuit, le travail de week-end, la permanence du service public, pourquoi une majorité de Français considère que ces régimes spéciaux ne sont plus aujourd'hui valables en 2019?
Je vais vous retourner le propos. Malgré tout ce que le gouvernement a pu critiquer, médire, mépriser ceux qui ont des régimes spéciaux, c'est globalement 55-45, n'est-ce pas ?
C'est en faveur d'une suppression de ces régimes spéciaux.
Ben, il faut expliquer que les régimes particuliers, ce n'est pas un privilège. Moi, je prends toujours un excellent exemple de M. Édouard Philippe et M. Macron. Oui, c'est pas normal que les chauffeurs de bus du Havre ou ceux d'Amiens n'aient pas le même régime de retraite que les chauffeurs de bus de la RATP. Ils font le même boulot.
Ils sont égalisés par le haut.
Mais bien évidemment. Mais... C'est ça, prendre en compte la pénibilité. C'est pas enlever des droits à ceux qui en ont. C'est d'en donner à ceux qui n'en ont pas. Et vous pouvez généraliser ce genre d'exemple. Pour le travail de nuit, par exemple. Pour le travail posté. Il faut, vous savez, ça fait 5 ans que parce qu'il était ministre de l'économie avant M. Macron. Que je dis, il faut un vrai, et d'ailleurs, Laurent Berger, sur ce point de vue-là, est d'accord avec nous. Il faut une vraie réflexion sur le travail, sur le sens du travail. Pourquoi ? Voyez-moi ce qui m'a choqué, ça, c'est grave, quand une directrice d'une école maternelle se suicide. Enfin, la maternelle, c'est l'éducation, c'est vraiment là où on devrait s'épanouir, tant les gamins que ceux qui sont chargés d'éduquer les mômes. Eh bien, quand il y a un tel drame qui se passe, ça devrait être un détonateur dans la tête de nos politiques.
Ça n'a rien à voir avec les régimes spéciaux, Monsieur Martinez, vous êtes d'accord ?
Je vous parle du travail, monsieur. Vous savez ce que c'est que le travail ?
Bien sûr.
Le sens du travail. Pourquoi il y a tant de gens qui sont mal au travail ? Pourquoi dans des entreprises, alors qu'avant, moi j'en croise plein, des salariés qui avant disaient « je voudrais que ma fille ou mon fils vienne travailler dans ma boîte », aujourd'hui ils disent « non, surtout pas ici ». C'est trop, on est trop mal. C'est autour de ça qu'il faut s'attacher. Eh bien, quand on parle de ça au président de la République, il dit oui. Mais depuis 5 ans.
Mais quand les travailleurs du privé doivent partir à 60 ans.
La parole est à François Spressos.
Juste, bon, j'aurais pas la réponse, mais juste sur cette différence de traitement entre les travailleurs du privé et les cheminots. Voilà, c'est tout.
Mais premièrement, je vous ai déjà dit que involontairement, de plus en plus de travailleurs du privé de 55 ans n'ont plus de boulot. Oui. Comment on répare ça? Ouais, eux, ils n'ont pas demandé à partir avant. Nous, on dit qu'ils puissent partir à 60 ans. Mais ils sont au chômage. Ils perdent des sous. Et pour la retraite, ça va peser. Notamment si, en plus, on prend l'ensemble de la carrière. C'est de ça qu'il faut parler.
François Spressos.
Je voudrais savoir, qu'est-ce qui se joue, à votre avis, à travers tout ce mouvement social ? Est-ce que c'est uniquement la réforme des retraites ou c'est un mouvement anti-Macron ou un mouvement anti-politique libérale de Macron ? Je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce que vous sentez, vous.
Philippe Martinez. Je pense que c'est la... On pourrait dire ça comme ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a beaucoup de... J'en ai cité quelques-unes. Il y a beaucoup de mouvements sociaux... On va pas tous les citer. Il y a, y compris dans le privé, les fermetures de sites qui sont contestées, etc. La retraite, ça concerne tout le monde. Et contrairement à ce qu'a essayé de faire croire le gouvernement, que ça serait juste les régimes particuliers qui seraient touchés, tout le monde mesure bien que tout le monde est concerné. Et donc, ben c'est ça qui a fait le ciment de ce qui s'est passé jeudi. Et je pense donc que c'est la politique sociale du gouvernement. C'est pas du ressenti de se dire que le
vous ne répondez pas complètement à Françoise.
Si vous aviez un slogan pour définir au fond ce qui pourrait unifier tous les mouvements de protestation, ce serait quoi ?
C'est un ras-le-bol du mépris et de la politique sociale du président de la République et du gouvernement.
Mais donc du coup, ce mépris Becker. Dont vous parlez depuis le début de l'émission, vous êtes senti méprisé. On a
pas moi. Hein.
Non, ben non. Enfin,
les voilà. Salariés, mais
bien sûr. C'est ce que je voulais dire en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de revanche finalement là en ce moment de s'en prendre pas simplement aux retraites, mais à toute la politique d'Emmanuel Macron depuis deux ans et demi, c'est ça ?
Philippe Martinez. Le personnel de santé, ça fait combien de temps qu'ils sont en grève avec dans les conditions où, pour faire grève dans la santé, on n'abandonne pas son patient au milieu du lit en disant « je vais faire grève ».
Et les personnels hospitaliers ont appelé à la mobilisation mardi prochain.
Parce qu'ils ont une conscience professionnelle. Donc ça fait un moment que ça dure.
Oui, mais je le disais tout à l'heure dans mon portrait, des échecs, vous en avez enchaîné quelques-uns, vous avez essayé de vous battre, vous avez rarement gagné jusqu'ici. Là, c'est un peu l'occasion de prendre...
C'est pas une question de revanche, c'est que c'est la première, vous pouvez en convenir, c'est la première réforme qui touche tout le monde.
Mais dont on ne connaît pas le détail.
Ah bon ?
C'est le paradoxe.
Vous savez pas que c'est on parle de retraite par points ?
Si.
Ah, d'accord. Mais en l'occurrence, vous savez pas qu'ils veulent prendre l'ensemble de la carrière ?
Non, mais Philippe Martinez,
vous savez pas qu'ils veulent supprimer les régimes particuliers pour baisser les droits de certains salariés ?
Mais reconnaissez qu'on ne connaît pas le détail de cette réforme.
Reconnaissez que la base de cette réforme, on la connaît.
La base.
Point. Ensemble de la carrière. Fin des régimes particuliers pour ceux qui ont des droits. Ça fait quand même un sacré morceau.
Mmh. Hein, mais donc vous n'attendez rien au fond des doigts.
Vous connaissez la valeur du point, vous ?
Le retrait.
Non, moi non plus.
Mais le gouvernement peut-être pas non plus.
Bah c'est grave alors.
Mais qu'est-ce que vous
attendez ? J'ai entendu une députée qui avait dit 1 euro cotisé égale 10 euros, mais en ce moment c'est
Je le dis en souriant, Philippe Martinez, mais en l'occurrence, beaucoup ont reproché au gouvernement de ne pas avoir présenté un texte détaillé sur lequel on puisse négocier. En l'occurrence, le Premier ministre va faire des annonces mercredi. Qu'est-ce que vous en attendez ? Vous n'en attendez peut-être rien.
Je vous ai déjà dit, je crois, à plusieurs reprises, que la base de cette réforme est mauvaise. Mauvaise. Tout le monde, enfin, en tout cas, une majorité de personnes s'en sont aperçues. Et donc, il faut retirer ce projet et travailler sur autre chose. Et nous disons, je vous ai cité quelques exemples, on peut améliorer. Je vous ai parlé des travailleurs du numérique, les jeunes. On dit aux jeunes, faites des études. Et on a raison de leur dire, faites des études. Mais s'ils sortent de l'école, de l'université à 25 ans, si la seule perspective, c'est de partir à la retraite à 70 ans, encore en cas de carrière complète, est-ce qu'on va sacrifier les générations ? C'est ça, la clause grand-père, c'est de dire, nous, on est peinards. Mais alors les jeunes, débrouillez-vous.
Oui, cette clause du grand-père,
tous en même temps. Karine Bécart,
cette clause du grand-père, si elle est finalement proposée, c'est-à-dire une application de la réforme aux seuls nouveaux entrants dans le monde du travail, ça ne change rien. Vous demandez quand même.
Philippe Martinez, vous êtes grand-père, vous ?
Pas pour l'instant, non.
Père.
Vous êtes père.
Vous êtes un jeune père.
Vous allez dire à
Wittenberg,
vous allez dire à votre fils ou à votre fille, moi, je vais partir à tel âge, mais toi, tu partiras 10 ans après.
Parce que le
niveau. Mais vous êtes. Donc ça, nous, on veut pas sacrifier une génération. Le problème qu'il y a à regarder, c'est quel financement pour améliorer le système actuel. Voilà.
Karine Bécart, puis François Stressos.
Juste quand même pour rester sur ce thème-là, est-ce que il était imaginé au départ, quand on a inventé le système de retraite tel qu'on le connaît aujourd'hui et qu'on peut améliorer, ce que vous proposez, est-ce que raisonnablement on peut imaginer que les gens doivent passer ou peuvent passer ou pourraient passer 25 ans de leur vie en retraite? Est-ce que c'était la philosophie de départ ? Est-ce qu'on doit rentrer dans cette philosophie-là ?
Pourquoi on a créé la sécurité sociale ? C'est pour pas mourir au travail ? On revient à ça ?
Non, mais c'est pas ça ma question.
Est-ce que c'est un problème dans une société moderne, dans un pays moderne, qu'on passe plusieurs années à la retraite en bonne santé ? Parce que vous savez que l'espérance de vie en bonne santé, c'est autre chose. C'est le symbole d'un pays moderne. C'est ça un pays moderne, où le fruit du travail, ce qu'on appelle le partage des richesses, il est équitable entre des entreprises qui donnent de l'argent à leurs actionnaires et des citoyens qui veulent être soignés en payant le moins possible, qui veulent profiter d'une retraite et qui dégagent du temps pour faire embaucher leurs enfants ou leurs petits-enfants, parce que c'est pas normal que dans notre pays, majoritairement, les jeunes passent par la précarité pour commencer leur vie professionnelle. Vous voyez, c'est ça, une société solidaire. C'est le contraire des premiers de cordée, vous voyez.
François Stressos.
On sent aussi beaucoup de malaise dans les services au public, c'est-à-dire dans l'hôpital. On voit aussi à l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez que le mouvement actuel, en dehors de la réforme des retraites, traduit aussi ce malaise, et est-ce qu'à ce moment-là, il peut durer, ou en tout cas, se transformer en quelque chose d'autre qu'un pur refus de la réforme à points ?
Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que la réforme des retraites, c'est le ciment de tout le mal-être qu'il y a dans ce pays. En tout cas, de beaucoup de mal-être. Et ça se voit notamment à l'hôpital. Enfin, vous avez des personnels qui sont dévoués. D'ailleurs, les directions et le gouvernement abusent de cet engagement professionnel. Alors, en essayant de les culpabiliser. Mais c'est valable chez les fonctionnaires. Vous savez, je discutais avec des fonctionnaires des finances publiques. Vous savez combien il y a eu de passages l'année dernière physiques, c'est-à-dire des gens qui viennent demander des renseignements. 15 millions. 15 millions de contacts physiques pour demander des
renseignements. À la CGT.
Non. Dans les trésors publics.
Au trésor public.
Prenez des notes.
Des citoyens.
Dans les trésors publics. Pardonnez-moi.
Sur leurs impôts.
Eh bien, la réponse du gouvernement, c'est on ferme des trésors publics parce que le numérique, il y a besoin de liens sociaux. Donc, voilà. Et on dit aux fonctionnaires, vous êtes des privilégiés, vous avez l'emploi à vie, vous avez des meilleures retraites que dans le privé. Mais enfin, faut voir leur salaire. C'est là où il est le problème. Donc, vous prenez les fonctionnaires d'État, l'enseignement, j'en ai parlé tout à l'heure. Les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire ceux qui travaillent, et puis les grandes entreprises. Quand il y a les épisodes de neige, qui va sur les pylônes pour essayer de rendre service à la population ? Eh bien, c'est ceux qu'on appelle que le gouvernement appelle les privilégiés. Quand il y a des problèmes, y compris d'inondation, qui se déplace pour réparer les rails et faire en sorte que les trains fonctionnent plus vite, oui. Qui travaille le dimanche, les jours fériés ? C'est bien ceux qui sont au service des citoyens. Et là aussi, il faut rediscuter de qu'est-ce que c'est qu'être fonctionnaire. C'est pas être au service d'un gouvernement. C'est pas être au service d'un maire ou d'élu d'une collectivité. C'est être au service des citoyens en toute indépendance.
Est-ce que c'est sur cette mobilisation que vous comptez en priorité pour faire grossir le mouvement et éventuellement le faire durer, c'est-à-dire vous appuyer sur le mal-être du service public.
On appuie sur rien du tout. On va discuter, vous savez,
c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir vous appuyez. Comment est-ce que vous sentez le mouvement social et comment vous manœuvrez pour être
avez des termes qui me font peur.
C'est pas le manœuvre, non. C'est comment vous.
C'est pas un gros mot, manœuvrer.
Comment vous cheminez pour être. Non, c'est pas manœuvrer.
Non, c'est vraiment...
Comment vous cheminez pour être au plus près de ce que vous ressentez et de ce qui est possible.
Les militants de la CGT sont au contact de leurs collègues dans les entreprises du privé, du public. Et on discute, par exemple sur la retraite, on dit voilà ce que propose le gouvernement, voilà les propositions que fait la CGT. On a fait un journal, je voulais pas ramener, à 2,5 millions d'exemplaires. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas distribué un journal pour expliquer les propositions, il faut aller discuter. C'est ce que d'ailleurs nous reprochons au gouvernement. Ils ont des grandes théories, hein. Mais des fois je vois des salariés qui me disent mais ils habitent où eux ? Ils habitent où ? Dans quel monde ils vivent ? Il faut aller sur le terrain, il faut aller discuter avec ceux qui travaillent, avec ceux qui souffrent au travail. C'est ce qui manque souvent aux représentants du gouvernement et surtout au président de la République.
Alors le risque peut-être, c'est la tentative que pourrait tenter de faire le gouvernement vis-à-vis des enseignants. On sent que les enseignants, ils ont repéré effectivement qu'ils avaient été très massivement mobilisés jeudi, qu'il y a un vrai malaise. Peut-être, on va parler avec Dessy, peut-être que Édouard Philippe pourrait annoncer quelque chose de conséquent pour les enseignants. Ça serait une vraie fracture, pour le coup, s'ils sortaient de la mobilisation, si effectivement leur salaire était de manière très conséquente revalorisé. Est-ce que vous pourriez continuer aussi facilement à mobiliser dans les jours qui viennent, pas simplement mardi?
On verra, parce qu'avec Dessy,
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la stratégie qui est en ce moment?
Pour reprendre vos termes.
Est-ce que c'est la stratégie du gouvernement?
Il annonce 600 euros mensuels d'augmentation pour les enseignants.
C'est ce que vous fixez?
Vous allez peut-être... Non, c'est ce qu'il demande. Enfin, c'est ce qu'il faut
4
pour...
4 à 600, oui.
C'est ce qu'il faut pour rattraper le retard. Ça sera le fruit de la mobilisation. Alors, vous pourrez dire dans une future chronique que c'est encore une défaite pour le monde du travail. Enfin... vous savez, 600 euros de plus sur le salaire, je considère.
Mais c'est la stratégie du gouvernement, c'est ce que vous percevez
Non, je ne sais pas. Moi, je ne bosse pas avec Dessy. Hein.
Je vais vous poser une question sur une catégorie dont on n'a pas encore parlé, c'est les usagers des transports publics. Quel message
c'est les mêmes.
Oui, mais quel message vous leur faites passer?
Pas tous.
On ne lâchera rien, quelles que soient les conséquences. Et l'argument des conséquences économiques, du manque à gagner pour les commerçants en période de Noël, est-ce que vous en tenez compte dans votre détermination?
On les écoute, hein, parce que... Oui.
Qu'est-ce que vous en faites ?
Il n'y a pas les usagers et les travailleurs, les travailleuses. En général, c'est les mêmes.
Absolument.
Donc, on est tous... quand il y a une grève des transports, on est tous...
impactés.
Je pense que En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il y a, sinon l'opinion publique serait pas dans cet état. Moi, vous savez, j'étais marqué jeudi dernier par un patron d'une petite entreprise de l'Aveyron, dans une émission télévisée sur le service public, qui m'a pas engueulé moi, qui a grondé Darmanin en lui disant, mais pourquoi vous faites ça maintenant? Pourquoi vous faites ça maintenant? Vous saviez que ça allait être compliqué, vous nous mettez en péril. Vous voyez?
C'était jeudi, donc vous avez la parole.
C'est ça.
Vous mais l'avez vu mais oui, bien sûr, j'ai vu. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'était de voir à la fois les échanges et particulièrement les prises de parole de citoyens qui témoignaient de leur situation, de leur inquiétude. Mais quand vous revendiquez d'une opinion majoritaire qui vous soutiendrait, il y a quelque chose de contradictoire, et j'aimerais connaître votre analyse. D'un côté, la majorité des Français soutiennent la mobilisation. De l'autre côté, une majorité de Français ne veut pas du système actuel et veut passer à un nouveau système par points. Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction?
C'est pas un nouveau système par points. Veulent changer de système de retraite.
Dans les enquêtes d'opinion, ils veulent changer de système de retraite pour un système universel.
Non, changer de système de retraite. Vous me posez moi la question, est-ce que vous voulez changer de système? Je vous dis, oui, il faut changer le système, il faut le faire évoluer. Donc voilà.
Non, vous dites il faut changer de système ou il faut changer système.
Il faut faire évoluer le système.
Voilà, mais vous voulez conserver le système actuel.
Mais posons la question aux Français, est-ce que vous voulez faire évoluer le système pour plus de justice? Je suis sûr qu'à 80% ils répondront oui, vous voyez. Par contre, ce que je note, c'est qu'ils ne font pas confiance au gouvernement pour changer le système de retraite. Vous voyez, un sondage qui vous a peut-être aussi échappé, je les regarde de temps en temps. C'est un sondage Harris de la semaine dernière qui pose la question, est-ce que vous faites confiance aux syndicats pour faire évoluer le système de retraite? 44% disent oui. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement? 25% disent oui.
Mais on leur a pas demandé quel syndicat, parce qu'en l'occurrence, est-ce qu'ils font confiance à la CFDT ou à la CGT, qui ont deux discours et deux stratégies totalement différentes?
Aux syndicats. En tout cas, ils font pas confiance à un gouvernement. Ça, vous le connaissez, celui-là.
Françoise Fressoze.
La bataille de l'opinion publique va être déterminante dans les jours et les semaines qui viennent. Comment allez-vous faire pour pas perdre l'opinion publique, alors qu'au fond, le gouvernement est dans une stratégie très différente de celle de 95? C'est pas un Édouard Philippe droit dans ses bottes, c'est un Édouard Philippe qui dit, je vais négocier, je vais faire des aménagements. Comment est-ce que vous allez éviter le procès qu'on risque de vous faire, de dire celui qui est le plus dur, qui ne veut rien négocier, c'est Monsieur Martinez?
Moi, j'entends le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre qui a dit on ne changera rien.
Non, il dit pas ça.
Ah bon?
Vous pouvez pas dire ça.
Vendredi après-midi, c'est pas ce que dit.
On fera la réforme par point, mais avec des concessions.
On fera la réforme par point. C'est on ne changera rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Donc il n'y a rien à négocier, rien à discuter au fond.
Je vous l'ai dit.
Non, mais c'est ce qu'on essaie de comprendre depuis le début.
C'est le retrait ou rien. C'est ce qu'on disait au début de l'émission.
Je vais continuer les propositions de la CGT. Prise en compte des années d'études, vous l'avez noté. 10 meilleures années, vous l'avez noté. Retour à 60 ans. Par contre, ce qu'il faut changer radicalement, c'est ce qu'ont détricoté Monsieur Delevoye, les ancêtres, entre guillemets, de Monsieur Darmanin, de Monsieur Macron, puisqu'il était dans le gouvernement précédent, qui a rallongé la durée de trimestre et qui a continué à exonérer les grandes entreprises, notamment des cotisations sociales. Il faut que tout le monde paye des cotisations sociales. Moins on donne d'argent à la sécurité sociale, eh bien plus on dit il faut tout casser parce qu'il n'y a plus de sous. Donc vous savez que jusqu'à 2,5 fois le SMIC, il y a des exonérations de cotisations sociales. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Nous, on propose d'augmenter les salaires. Quand vous augmentez les salaires, il va y avoir la négociation sur le SMIC bientôt. Ça, c'est du ressort du gouvernement, de mettre le plancher, de relever le plancher. Ben, quand on augmente les salaires, automatiquement, on augmente les cotisations. C'est un pourcentage du salaire. Vous voyez qu'il y a des solutions. Donc, c'est pas tout ou rien. C'est projet contre projet. Le projet du gouvernement et le projet des syndicats, et moi je vous présente celui de la CGT.
Françoise Fressoze.
Le contexte politique, on voit autour de cette réforme se ressouder la gauche dans le non à la réforme, et on voit une personnalité assez présente dans les cortèges, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec lui, ou est-ce que vous dites indépendance syndicale qui ne se mêle pas de nos affaires?
Philippe Martinez.
Quand, à chaque fois, et je crois que je l'ai répété à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, il faut que le politique joue son rôle, c'est-à-dire qu'il y a un relais politique à un mouvement social aux revendications sociales, ça s'appelle un projet politique. Donc ça, et ça, c'est plus de notre sort à nous qu'ils se mettent d'accord, ou en tout cas qu'ils fassent des propositions. Je ne sais pas si...
Mais qui est le plus susceptible de traduire politiquement ce qui se passe dans le mouvement social, Philippe Martinez?
Eh bien, un homme politique ou une femme politique.
Oui.
Lequel?
Lequel et laquelle?
C'est pas à moi de décider. C'est leur responsabilité de transformer en projet politique un des revendications sociales. Ça s'est toujours passé comme ça.
Est-ce que la présence des...
Ça s'est pas toujours passé comme ça. En l'occurrence, la CGT a eu des liens avec des partis politiques dans son histoire. Évidemment, mais ça n'a...
Non, mais vous dites aujourd'hui, c'est comme s'il y avait deux mondes complètement étanches, le monde des syndicats et le monde de la politique.
Il faut des passerelles.
Oui.
D'ailleurs, il faut qu'on se parle.
Eh ben, dans ces cas-là, qui?
Mais on parle avec...
Vous parlez avec qui, ouais, en ce moment?
En ce moment, je parle avec...
Pas grand monde.
Pardon?
Pas grand monde.
Non, mais Olivier Faure, vous connaissez. Fabien Roussel, vous connaissez.
PS.
J'ai croisé Coquerel hier dans une manifestation.
La France Insoumise.
Voilà, et d'autres.
Tous les élus et tous les militants sont...
L'instant, c'est plutôt les députés de la République En Marche qui ne veulent pas nous parler.
Et ceux du Rassemblement National, est-ce qu'ils sont bienvenus dans vos manifestations?
Parce qu'on ne peut pas... Là, on touche à des valeurs de fond. C'est nous, quelqu'un qui dit c'est de la faute aux immigrés si ça va pas votre sécurité sociale, c'est pas possible. Et puis
c'est le premier parti ouvrier aujourd'hui, le Rassemblement National.
Peut-être qu'il y a un déficit ou en tout cas un manque de visibilité politique, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi je vous dis, les valeurs de la CGT sont incompatibles avec celles du Rassemblement National. Et puis on peut proposer la retraite à 60 ans, mais moi je vous ai dit où on prenait l'argent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis pas sûr que vous ayez les mêmes réponses du côté de ce parti-là.
Françoise Fressoz.
On vous sent gêné, Marine Le Pen dit...
Je ne suis pas gêné du tout, madame.
Marine Le Pen dit qu'elle a pas mal, dans le Rassemblement National, de militants de la CGT. Donc, est-ce que pour vous, c'est un problème? Est-ce que vous confirmez? Et est-ce que pour vous, c'est un problème? Et comment vous gérez ce problème-là?
Nous faisons des formations à nos militants et nos syndiqués pour expliquer et les valeurs qui sont les nôtres, qui sont en... nos positions totales avec, je ne sais pas si c'est des valeurs, avec ce que propose le Rassemblement National, et aussi l'usurpation économique et sociale de ce parti. Voilà. Évidemment, on ne peut pas nous faire porter toute la responsabilité, ce serait trop facile, qu'il y ait des citoyens, syndiqués ou pas, qui votent.
Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, des militants...
C'est une dépêche qui vient de tomber, en l'occurrence, c'est que l'émission se termine. Je voulais juste avoir votre réaction, Philippe Martinez, à ce que demande Bruno Le Maire. Il vous demande de dialoguer et il dit la chose suivante: la CGT défend ses troupes plus que les Français.
Vous voyez qu'il est encore dans la division. Il a raté quelques épisodes, Bruno Le Maire. On défend tous les Français parce que cette retraite, ce projet de loi concerne tous les Français. Et Bruno Le Maire, j'espère, a regardé la télévision, a écouté la radio... Il a dû entendre ou voir que jeudi dernier, il s'est passé quelque chose. Et c'était pas les privilégiés, c'était le monde du travail qui était dans la rue.
C'est la une du journal du dimanche. Qui va céder?
Vous voyez que je souris de temps en temps. Hein.
En photo avec le président de la République. La réponse, Philippe Martinez. Qui va céder?
On verra.
Ah, bah oui. Vous n'êtes pas sûr de gagner?
J'ai dit, c'est marqué, je crois.
On lâche rien. Ce sera le mot de la fin.
Merci
Philippe Martinez d'avoir été l'invité de Questions Politiques ce dimanche. Merci à tous les trois et merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de l'émission. À la semaine prochaine.